FM 93, c'est Dupont le matin.
Avec Stéphane Dodoun Dupont, Ray the Snake, Cloutier, Karen, la marmite, Pocket, Pierre, filet de sol dans le fond de la chaloupe, Blais et Nicolo, Smiley, Lacroix.
Dupont le matin. As-tu deux minutes?
Commençons par rappeler ce qui s'est passé du côté de Beauport hier soir. Les policiers du service de police de la Ville de Québec qui ont été appelés aux alentours de 20:30 pour intervenir, c'est qu'il y a un passant qui a découvert une victime de 32 ans qui aurait été poignardée à plusieurs reprises dans une résidence sur l'avenue Saint-David. L'homme a été retrouvé sur Saint-David par l'automobiliste qui l'a amené à l'hôpital. On dit qu'il était ensanglanté et à demi-conscient. La victime est actuellement dans un état jugé critique par le SPVQ. On n'a pas été en mesure d'arrêter quelqu'un dans cette histoire-là. L'enquête qui se poursuit.
Je sais pas. Vous allez trouver ça bizarre, mais ça m'est déjà arrivé. Je sais pas si y a quelqu'un qui va payer pour le nettoyage de la voiture du bon samaritain.
Bonne question.
Tu sais, j'appelle ça comme ça, là. C'est vraiment quelqu'un qui est passé là, j'allais pas dire par hasard, peut-être que c'est un résident du secteur, mais quand même, Saint-David, c'est un endroit où ça circule quand même pas mal. T'embarques quelqu'un qui est blessé puis il saigne dans ton char, là. Ça doit être du stock à nettoyer, là. Ça prend peut-être même un nettoyage particulier. Est-ce que il y a quelqu'un qui va payer?
Assumer les frais,
oui. Assumer les frais. Est-ce que c'est peut-être, non, pas la ville. C'est pas à la ville d'assumer ça.
Il y a peut-être un programme qui existe là pour une espèce d'équivalent de victime de je sais pas trop quoi, mais lui, parce qu'il a il est intervenu, il y a des sommes qui sont prévues pour ça. Ouais. C'est vrai que la voiture peut être complètement en scrap là.
Ben moi c'est arrivé parce que une époque une amie à moi elle s'est blessée.
Ouais.
Peu importe comment, là, en vélo là, peu importe. Mais puis elle saignait. Puis là, ça prend un transport rapide. Mm-hmm. Puis tu sais, ça fait longtemps, tabarnouche, ça doit faire plus de 25 ans. Fait que, puis pas de, plus que ça même. Puis, en tout cas, pas de cellulaire. Puis c'est un passant qui a arrêté, puis qui m'a aidé, qui l'a pris, puis on l'a assis dans le pick-up. Mm-hmm. Puis là, elle saignait de la jambe, puis ça a saigné sur le banc. Mais le gars l'a emmené à l'hôpital, tu sais, pour aller réparer sa blessure. Mais ça avait sali le pick-up du gars en maudit, là. Fait que je ne sais pas comment ça marche. Je sais que la police est quand même protégée par certains programmes. Tu sais, comme par exemple, des fois ils vont faire une intervention puis ils vont défoncer une porte.
Oui.
Parce qu'il faut qu'ils rentrent dans une maison ou whatever. Il y a un programme. Ça, la ville va payer. Tu sais, parce que mettons que toi t'es propriétaire d'un bloc, puis t'as un locataire qui vend de la drogue,
oui,
puis que la police défonce. Je pense que, puis tu sais très bien que c'est pas le dealer qui va te rembourser les bris après la maison. Fait que d'après moi, en tout cas, on m'a confirmé qu'il y avait un programme qui existait pour rembourser donc les dommages qui sont causés par la police. Tu sais, c'est quand même, tu sais, des fois tu te dis, voyons, c'est quand même pas de bon sens. T'sais, c'est des criminels qui sont là, la police fait sa job.
Ouais, mais le propriétaire, il a peut-être rien à voir là-dedans du tout. Là.
Ouais, puis je repensais, puis j'en ai glissé un petit mot. Je sais pas si vous vous souvenez, là, quand il y a eu la frappe contre les gangs de rue puis les motards, la guerre, la maison là dans Charlebourg, ils avaient cassé la bay window en avant. Là. Ils ont cassé la bay window, ils ont défoncé les portes. Je sais pas si vous vous souvenez de cette maison-là, là. Et il y avait eu des gaz lacrymogènes à l'intérieur avant d'intervenir.
Ouais, ouais.
Ça scrape une maison, là. Est-ce que la ville paye pour refaire la maison?
Ben, si t'es propriétaire puis que t'es la cible de l'intervention, j'ai l'impression que non.
Mais quelle serait la différence?
Ben, s'ils font une intervention policière chez vous puis t'es accusé dans quelque chose, non, je pense. Toi, tu penses qu'ils peuvent dédommager ou qu'ils doivent dédommager?
Je sais pas. Okay. Je vais m'informer, mais...
Un ambulancier qui découpe les vêtements de quelqu'un qui est sur la planche pour l'amener à l'hôpital?
Ça, généralement, ça va être à cause d'un accident de la route.
Ouais.
Et ça, t'es automatiquement payé par la SAC. J'ai des chums qui ont eu des accidents de moto, mettons. Puis, tu sais, quand tu roules sur l'asphalte, ça fait pas de bien un manteau de cuir.
Non.
Sans qu'il soit scrap, mais des fois, il va être graffiné. Il y a un maximum, là. Je pense que pour les vêtements, c'est 500$. C'était à l'époque, là, il y a même une époque lointaine, tu avais le droit de réclamer 500$ de linge à la SAAC pour des vêtements brisés lors d'un accident. Fait que effectivement, on paye. Mais même si t'es la cause de l'accident, tu sais, c'est ça que je vous ai toujours dit, là, le gars il est sans permis, en état d'ébriété, avec un camion non plaqué, non assuré. Il y a un accident, il a frappé un poteau, le gars. Il s'est blessé gravement. Mais je sais pas si on paye pour lui encore, mais à cette époque-là, quand j'avais enquêté sur cette affaire-là, la SAAC lui versait une indemnisation. T'sais, vole le toc, pas plaqué, pas assuré, pas de permis, sous red. Puis on paye pour lui. On a tout payé, tout. Ça, c'était parfaite.
On nous dit si ça peut vous aider les meurtres, suicides, bref, scène de crime, l'assurance paye pour la maison, par exemple.
L'assurance, la maison?
Ouais.
OK.
Pour le nettoyage.
Ah, ça, je trouve pas ça correct, par exemple. Attends un peu, là. Tu dis... comment ça?
Ben, c'est quelqu'un qui nous écrit « Si ça peut vous aider pour les meurtres, suicides, bref, ce qui est scène de crime, l'assurance paye pour la maison. »
Pour le nettoyage et le rétablissement de la maison. OK. Moi, je suis pas très, très fort sur ces réclamations d'assurance, là. T'sais, c'est pas... Oui, ça va aider sur le coup à payer, puis mais souvent, ça va se reprendre, là. Vous savez comment c'est rendu, l'assurance.
C'est sûr, tu vas avoir un impact.
Il y a un impact. Il y a un intact, puis il y a un impact.
Puis quelqu'un a eu une descente dans son dans un 4 logements, puis deux portes défoncées, personne ne paye pour ça, Stéphane.
OK.
Dette de 463 millions de dollars pour Stéphane Huot. On dit que c'est la pire faillite de l'histoire de Québec. Alors, c'est quelques chiffres là, qu'on peut préciser. Ce sont des chiffres qu'on peut préciser. La précédente faillite la plus importante, c'était celle de Raymond Malenfant, qui, en dollars d'aujourd'hui, aurait été équivalu à 270 millions de dollars. Lui, d'ailleurs, on se rappellera qu'il est décédé en janvier 2022. Il avait 91 ans. Maintenant, dans le cas de Stéphane Huot, on dit qu'il pourrait retrancher jusqu'à, ben c'est lui qui l'avance, ça, jusqu'à 150 millions de dollars supplémentaires à sa dette pour la situer aux alentours de 315. Et il se montre encore même plus confiant. D'autres arrangements pourraient fixer sa dette finale quelque part entre 150 et 175 millions de dollars. Et
il
non,
est en train de répéter la même affaire. Il nous fait des promesses. On n'a pas de trouble. L'argent, il n'a pas de trouble. C'est à nous, la société, d'arrêter un gars comme ça, là. D'arrêter les... Puis là, ben, c'est sûr que tout le monde va être méfiant autour, mais j'entendais son syndic hier dire, ouais, oui, puis avec les talents qu'il a, il va repartir. Ça n'est dangereux de savoir qu'il va repartir. Tu sais, qui se fera flouer? Puis, encore là, l'autre question, est-ce que c'était sa première mésaventure, si mésaventure s'applique dans son cas ici? Alors, il y a toutes sortes de questionnements. Je ne sais pas qui tente de laver l'image de ce gars-là. Je t'annonce qu'il y a des gens d'affaires qui, d'après moi, à Québec, ils veulent rester en passant très, très discrets. Hein. Ça, c'est un peu dommage. Ils veulent rester cachés. Puis c'est bien correct, là, derrière leurs avocats et tout, mais qui ont perdu énormément d'argent. Me semble que ce serait tout à fait normal de vous tenir debout puis de pas laisser ce gars-là faire d'autres victimes plus tard. Là. C'est ça qui est bien important. Là.
Et au Cégep Garneau, levé des cours qui a été refusé pour voir l'éclipse, même si les étudiants se sont majoritairement prononcés. À près de 80% des étudiants quand même qui avaient levé la main pour dire, ben nous, le levé des cours d'entre 14h et 18h lundi, ce serait quelque chose d'intéressant pour qu'on puisse assister à l'éclipse.
Je me demande combien de ces étudiants auraient assisté à l'éclipse pour
ben, on va le regarder.
C'est le c'est le vote étudiant, semble-t-il.
Ben, je l'ai vu, super cool.
C'est le vote étudiant le plus avec la plus grande participation depuis un bon moment. On parle quand même de près de 3300 étudiants qui se sont exprimés au Cégep Garneau.
Vous pensez pas qu'ils vont vouloir l'avoir?
Ben oui.
OK. Fait que là, avez-vous décidé qu'est-ce que vous faites à l'éclipse, vous autres?
Hey, t'es-tu tannant?
On se fait-tu un tailgate?
Mais ça serait vraiment...
C'est trois minutes! Non, mais ça, ouais, mais ça prend...
Non, pause, dure plus longtemps
non,
que
non,
ça.
Non, mais là, l'éclipse totale est trois minutes, mais on va voir ça pendant deux heures.
La préparation, là, puis tout. Tu sais, puis on mangera pas des ailes durant l'éclipse totale. On va se touffer avec les os. Voyons.
C'est ça.
Faudrait...
Des ailes, pas d'os.
Tu viens avec moi? Moi, je te dis, je vais au bord de la tour, à Saint-Joseph. La tour est fermée, mais je veux dire, la tour, il n'y a pas vraiment une tour, là. Il y a déjà une tour après cette maison-là, je pense. C'est pour ça que ça s'appelle de même.
Ça se peut bien que je regarde ça de mon balcon.
Tu vas regarder ça non, de ton
on
balcon?
On a été invités là, par des gens quand on a parlé cette semaine.
Ah oui?
C'est mardi qu'on
a été invités.
Où? Ben, il y a plein de monde là, qui disait venez chez nous dans le coin de Thetford. Là.
Ah ouais, OK. Ah
oui, des plans pour
aller à Saint-Joseph.
Mais non, hey, tu ne seras pas kidnappé. Que... Là, 5 minutes avec toi, ils vont dire retourne chez vous.
Ah, tu ne reviendras pas avec le cancer à cause de l'amiante. Là.
On dit Thetford.
Ça même plus à ça.
C'est ça. Tu pensais pas à ça, l'amiante?
Ben non, franchement.
Mais quand tu passes à Thetford, tu ne peux pas l'oublier. Là.
Non?
Ah non, c'est.
Tu tousses un petit peu.
Tu pensais à l'époque, là. Ouais. À l'époque. Puis même.
Toutes nos maisons.
Bien avant Thetford. Non, mais.
Moi, ma maison est en bardeau d'amiante, moi.
Ah oui?
Ouais.
OK. Ça va être ça, tu ne devrais plus jamais leur dire.
Ben oui, mais qu'est-ce que je te dis? C'est la réalité.
Ils vont le voir à l'inspection, de toute façon.
Ouais, mais en tout cas. à une certaine époque, là, ouais, ça prenait un balai à neige d'hiver l'été.
Ouais.
Puis, j'exagère pas, là. Moi, j'ai vu les photos dans les années 70, là.
À cause de la
autour,
fièvre, ça se défaisait, ouais.
À, ouais, à cause de ben, des mines qui étaient en, et des camions qui étaient pas sur des routes asphaltées. On creusait la mine et on faisait des dompes. Hey, les avez-vous vraiment bien remarqué, les dompes? À partir de East Broughton, là, puis même un peu avant East Broughton, là, il y a les tas de pierres qu'on a sortis du sol qu'on n'a jamais remis dans le trou, là. On n'a jamais remis ça nulle part. On a creusé d'immenses trous. D'ailleurs, on a dû dévier la route entre Thetford et Black Lake. Ça a coûté des millions et des millions de dollars, ça, aux routes québécoises pour refaire ça parce qu'il y a eu des glissements de terrain. Tellement le trou, il est creux. Hey, c'est creux en joie le bord, la mine à Black Lake, là.
C'est immense.
Mais à l'époque, dans les années 70, tous les jours, c'était une journée de neige l'été, là. C'était une poussière constante et les gens vivaient dans ça. Des voitures ensevelies, là, pas ensevelies à être pris, là, mais
comme du pollen l'été, là.
Ah, oh, ouais, mais ça se déposait, c'était ça d'épais sur le char.
Okay.
Tu sais, je te montre 3 pouces, c'était ça d'épais sur le char, là. Oui, il fallait tasser ça, là, vraiment, avec un balai à neige. C'était comme ça. Et quel autre effet que ça avait? Puis ça a été jusqu'à récemment. Il y avait tellement de cette poussière de fibres d'amiante là et de pierre dans l'air qu'elle se déposait sur l'asphalte, puis quand il mouillait à Thetford, c'était plus glissant que l'hiver sur la glace. C'était terrible. Fait que là, je pense plus que ce soit comme ça.
C'est-tu texture Teflon, mettons, là, si je veux faire un parallèle avec quelque chose qu'on tient dans nos mains des fois, non?
Non, j'aurais plus glaise. Quand c'est mouillé, ça vient
Christ,
comme de la glaise.
Ah ouais, OK.
Plus.
OK.
Fait que, non. Et moi, mon oncle là, qui est décédé aujourd'hui, mais mon cousin Fred Dupont, qui habite encore à Thetford, qui habite dans les mines, il aime ça dire ça, on habite les mines, parce que ça fait chier la classe politique. Tu sais, la classe... Hey, vous savez, est-ce qu'ils l'ont retiré, mine... C'est plus Thetford Mines, hein? C'est Thetford. Je pense que Mines, ils l'ont retiré. Puis la classe politique...
Ouais. Ville de Thetford.
Non, c'est Ville de Thetford, hein?
Ouais.
Fait que, et puis, tu sais, mais des cabochons comme Junior Laflamme du Nicanva, puis mon cousin Fred, eux autres, ils restent dans les mines. Eux autres, c'est où tu restes? Dans les mines.
Fred Dupont?
Oui, les mines. Puis, mais mon oncle, là, où Fred a grandi, juste en face du bar de danseuse, le motel Eve, à Robertson, parce qu'avant, Robertson était un petit village précédent Thetford.
Robertsonville, c'est ça?
Robertsonville, oui. Tu passes, là, l'église est encore là, la caisse. Je sais pas s'il y a encore une caisse, là, mais l'édifice de la caisse est encore là. Puis mon oncle, ben ils sont encore propriétaires de cette maison-là. Mais moi, j'étais tout petit, on allait là, et derrière la maison, c'était un champ. Mais à chaque jour, il y avait commencé un tas de pierres qui sortait de la mine pas tellement loin. Et jusqu'au jour où je me souviendrai de tout le temps, on est arrivé là, puis on allait peut-être pas chez mon oncle à toutes les semaines, là, à tous les mois même. Puis on arrive là, et la montagne, c'était une immense montagne, et la pierre était à côté à sa clôture. Il y avait plus de champ, plus rien. La garnotte était à côté à la clôture du terrain.
Ils l'ont enclavé avec la garnotte.
C'était terrible. C'est terrible, les montagnes.
Ouais.
Pense à ça aujourd'hui. Une entreprise, okay, on va faire des trous. On va prendre ce qu'il y a dans le trou, on va mettre un tas à côté. Puis, même qu'on ait fini, on décalisse, puis on laisse ça là.
Non,
ça...
C'est arrivé souvent.
Ben, c'est arrivé.
C'est pour ça que ça arrive plus, idéalement.
D'ailleurs, vous savez que la fortune de Régis Labeaume vient de ça.
Ah, oui.
Vient des mines d'amiante. Oui, c'est comme ça qu'il a fait fortune en quelques jours. Écrit dans un livre qui a été bloqué par une injonction permanente.
Ça aurait pas pris une grosse montagne pour l'enterrer, Régis?
Non, mais il a fait une montagne
c'est
de cash.
C'est quoi le livre? Si on peut en parler, je sais pas si on peut en parler. C'est quoi le livre?
Non, on peut pas en parler. Il y a une injonction. J'en avais une copie, mais je l'avais prêté à Dess, puis je pense que c'est encore lui qui l'a.
Okay.
C'est quelqu'un qui a été impliqué qui a perdu sa job dans cette transaction-là. Faire une histoire, grosso modo, que j'ai le droit de raconter, là, jusqu'où je peux aller, c'est pas compliqué. Grosso modo, là, c'est que Régis Labeaume était un fervent partisan du Parti québécois.
Oui.
OK, vous le savez,
c'est
ça.
C'est même présenté, me semble.
Il a voulu se présenter, il voulait pas comme candidat, okay. Bien des fois.
Okay. Que,
mais peu importe, mais oui, il s'est peut-être déjà présenté. Et le gouvernement québécois avait eu la brillante idée de nationaliser l'amiante. On s'était dit, hey, on a nationalisé l'électricité, on fait des fortunes en fabriquant de l'électricité et en se la revendant. Et là, l'amiante est un produit isolant exceptionnel. Puis on a dans plein le sol, nous, de l'amiante. Alors, on a nationalisé les mines d'amiante. Puis quand on a compris que finalement, c'était de la stigmate, de l'amiante, fait que, et puis que c'était cancérigène, ben là, le gouvernement était propriétaire de deux mines d'amiante, si je me trompe pas. Et il voulait s'en débarrasser. Fait que là, il y avait pas personne d'acheteur, là, parce que là, l'amiante était plus en vogue, là. Mm-hmm. C'était plus à mode. C'était encore utilisé à cette époque-là. Et le premier ministre de l'époque du Parti québécois, qui était...
Jean-François...
Non, c'était René Lévesque, ou je peux pas, je veux pas aller là, je suis pas assez certain. Okay. Mais le premier ministre de l'époque, il disait, hey, lui, là, il avait été en affaires dans d'autres choses qui avaient plus ou moins marché, Régis. Ben, il a dit, occupe-toi donc des mines, ça te tente-tu de... Et genre, là, Régis et sa corporation, avec un autre gars, me semble...
Mazarin.
Ils ont acheté les mines. Ça, c'était à Régis Mazarin. Mais ils étaient deux, me semble, dans ça.
Okay.
Puis, ils ont acheté les mines d'amiante, puis ils les ont revendues à monsieur... c'était un monsieur Black, mais c'est pas rapport avec AIM, là. C'est pas Conrad Black. Ou, je me souviens pas, c'est la mine... Ah non, pas vrai. C'est un monsieur Jeffrey, un Américain, qui a acheté les mines. Puis, et dans la transaction, monsieur Labeaume a fait un genre de profit en quelques mois. Donc, ils ont acheté les mines, puis ils ont vendu, puis ils ont fait des millions de dollars avec l'enchère de ces mines-là. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on connaît de cette histoire-là. Et d'ailleurs, M. Labeaume n'a jamais... J'aurais aimé ça que lui la raconte, sa version des faits. Il n'a jamais voulu le faire. J'ai chez nous encore un DVD d'un enregistrement, écoutez, d'une émission. Je me souviens pas du titre de l'émission, qui était animé par Michel Jasmin, qui est un animateur qui est décédé, Michel Jasmin, aujourd'hui. Je ne le sais pas, entre Michel Jasmin est un animateur de télé d'époque qui était très, 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 très populaire.
Il a 78 ans.
Il a 78 ans aujourd'hui. Et il y avait une émission, lui, c'était un genre de face-à-face avec un invité. Et Régis Labeaume vient être élu maire de Québec et il embarque les deux pieds dans... Comment vous avez fait ces millions-là avec Mazarin? Fait que Régis Labeaume a enlevé son micro. Il a crié des bêtises, il a enlevé son micro puis il est parti. Moi, j'ai le DVD.
T'as le DVD? Mais on peut mettre ça, c'est disponible. On pourrait mettre ça en ligne.
On pourrait mettre ça en ligne, effectivement.
J'ai tout ce qu'il faut pour numériser ça.
Toi? Ben oui, ben oui. Faire ça, il serait content.
Mais je veux dire, ça a été diffusé. C'est pas illégal de diffuser ça.
Moi, j'ai pas...
Ça devrait faire
partie. Voler ça chez TVA dans les bureaux parce qu'il l'avait caché, là. L'enregistré à TV. Fait que c'est pas... Faudrait que je retrouve ça. C'est dans mes affaires. Tu checkeras dans tes boîtes, Nicolas, voir si ça serait pas là.
Check dans tes boîtes ici. T'as pas les affaires de Stéphane.
Ah, les mines. Vive les mines. Bon, qu'est-ce qu'on fait là?
Le Canadien a perdu 7-4.
Ah, le Canadien a perdu 7-4, effectivement. Il y a du Junior 3 à Montmagny ce soir. Oui. Et le baseball est bien enclenché, bien commencé un peu partout.
Les Jays contre tes Yankees. Ça commence à 13h aujourd'hui, 13h05, une série de 3 matchs.
À New York?
Ouais, à New York, c'est Kikuchi contre Strowman au Monticule.
Kikuchi! Ça va être le fun. Es-tu allé voir du baseball live? Toi, tu m'as dit oui, déjà au Capitale.
Non. Ben oui, j'étais allé à l'ouverture de la terrasse, puis je suis parti après. Mais j'ai vu le match des Étoiles. En 86?
82.
Okay.
82. À Montréal, ça?
J'étais là, ouais.
82.
OK. C'est cool, ça.
Ouais.
Bon.
Puis les séries du hockey junior qui se poursuivent ce soir, c'est Sherbrooke sur Blainville, Cabreton sur Rimouski et Rouyn sur Gatineau, les séries qui sont menées 3 à 1.
C'est 3 degrés actuellement. Il y aura des précipitations un peu foquées ce midi, donc un mélange de pluie. Non, mais c'est vrai.
C'est pas toi qui va tomber sur le monde, là?
Non. C'est que ça va être un mélange de pluie, peut-être de neige fondante ou de grésille ou de... Ça va être foqué. Fait que, puis on est vraiment écœuré de cette température de boîte, mais voilà que on n'a pas le choix, faut y passer. Puis même demain, ça reste très gris et avec 4 degrés seulement au mercure. Dimanche, beaucoup mieux, soleil nuage, 7 degrés. Puis lundi, plein soleil, sauf dans le milieu de l'après-midi, et 14 degrés, donc, de prévu.
Troisième faillite pour M. Huat.
Mais c'est la ça. Première personnelle. Ça se peut-tu?
Ah, peut-être. C'est donc, trois entreprises avant ça qui ont failli à la tâche.
OK. Là, j'ai un texto. Là. Tu sais, quelqu'un qui a décidé qu'il allait juste nous faire rire ce matin. Je suis persuadé que c'est une joke. Là. Bon matin, j'arrête sa tête Ferdy. Non, ils n'ont pas enlevé le Minds dans le nom. On vient de vérifier où ils l'ont enlevé. Après ça, j'ai 41 ans et je n'ai jamais connu la poussière d'amiante dans la ville. Ben, nous, on a vu les photos. Puis, ça fait aussi 25 ans que je conduis. J'ai jamais connu les rues glissantes à cause de l'amiante. Fait que dans le fond, ça vous tente pas à matin, là, monsieur. C'est ça, là.
Alors, les motocyclistes, fallait s'aviser. Puis c'était pas, la rue était pas glacée de vases d'amiante, là. C'était des fois, si t'allais trop près des lignes. Regarde, la comparaison est simple. En moto, quand il pleut, une des choses qui devient dangereuse puis qui me rend moins nerveux, puis c'est pire aux États-Unis, c'est de passer sur les peintures des lignes. Ça, là, vous n'avez pas idée.
Tu sais,
aux États-Unis,
ouais.
Là, les rectangles blancs pour les piétons, par exemple,
ouais.
Où eux, ils vont souvent même sur les autoroutes, les lignes de démarcation pour une sortie, par exemple, souvent vont être beaucoup plus larges qu'ici au Québec. Tu sais, des fois, on va avoir des lignes qui ont 4 à 5 pouces de large, puis m'a dit, c'est la même largeur que le tailleur de Bessic. Fait que s'ils mouillent, puis t'embarques là-dessus, là, tu dis, c'est comme ça de l'as. C'est arrivé, moi, à quelques reprises, j'ai perdu l'arrière, là, ça chire, là, parce que ça glisse en tabarnouche, mm-hmm. Là.
Qu'est-ce qui est glissant aussi pour la moto? Je pense que le sable.
Oui, du sable, ça, c'est sûr.
Est-ce que c'est vrai que le gazon peut être glissant lorsque, par exemple...
Le gazon, ça marche pas.
Non, mais je sais que sur le gazon, ça marche pas. Mais si, par exemple, moi, je tombe mon gazon à Loretteville, là, puis que je mets mon gazon dans la rue...
Ouais, c'est en même temps, les motos longent pas les chaînes de rue. Là. Ta tondeuse, elle doit pas pousser ça à 25 pieds plus loin.
Tu pourrais être surpris.
C'est bien. Là. Mais...
Non, c'est parce que j'ai vu ça circuler. Puis,
le gazon, je l'avais jamais remarqué, honnêtement.
Okay.
Vraiment.
Il fait 1000 d'or.
Il fait beau aux mines.
Ben, c'est ça.
OK. Karen, tu voulais me parler de ton utérus.
Non, pas du mien. Je suis assez pudique de mon utérus. Ça ne te dérange pas, on va le garder pour moi. Juste une précision, là, au registre des municipalités, il n'y a pas de changement de nom pour Thetford selon notre patron.
Il y a pas, c'est encore les mines.
Ouais, selon.
Mais le site internet de la ville, ils l'ont enlevé, par exemple.
Ils l'ont enlevé. Je sais qu'il y avait des demandes de fait. C'est pour ça quand je dis ça que la classe politique veut éliminer l'origine de la ville, qui était les mines. Fait que puis c'est pour ça que Junior, quand il fait faire comme l'équipe de baseball là, c'est les mines. Tu sais,
il vient jouer aux mines.
Il cherche le trouble.
Ah oui, cherche le trouble. Il a inventé le trouble, Junior, je pense.
Donc le texte. Christo avait raison. Ils n'ont pas enlevé mine.
Ben, la ville l'a enlevé sur leur site internet. C'est parce que le texto avait raison. Non. Les deux autres affaires qui disent non. Fait que c'était juste pour s'obstiner
quand
même.
Parce qu'ils ne l'utilisent plus vraiment plus de nulle part, là, quand tu vas à Thetford.
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 Bon.
Mais qui va à Thetford?
Plein de monde.
Stéphane?
J'y vais souvent, moi. J'aime ça, il y a un petit, y a un hôtel, là, qui faisait partie de la famille des Cash, là, à un moment donné. Puis là, ça s'appelle la Cash.
Johnny?
La Cash du Domaine, à Thetford. Y a un superbe hôtel, il y a des activités pour les enfants, il y a un lac artificiel, il y a deux super restaurants.
OK.
Non, c'est un coin le fun en maudit. Ça fait, durant la pandémie, là, j'étais allé là, à 3-4 reprises, parce que t'as des, genre de chambre d'hôtel avec une partie salon puis un foyer. Il y a une piscine extérieure. Vraiment, là, ça fait quelques fois que je vais...
Le Balmoral, ça existe plus, ça?
Le Balmoral, je pense que c'est complètement fermé. C'était beaucoup des gars de la construction qui couchaient là. Moi, j'avais couché là il y a 10-12 ans à peu près. Puis,
c'est qui
m'avait invité?
Un soir de calendrier, sûrement?
Non.
Non?
Non.
OK.
C'est... Qu'est-ce que j'avais été faire là, non? J'avais quelque chose de un peu. Qui c'est que j'avais comme client à Thetford? C'était pas Unicanva, là. Ah, c'était-tu de la course de drague à l'aéroport de Thetford? En tout cas, puis la personne qui m'avait invité dirait, on t'a réservé la suite au Balmoral. J'arrive là, je vais m'en souvenir comme c'était hier, le bain en cœur dans la chambre,
non.
Pour vrai. Oui, le bain en cœur dans la chambre. Peut-être, mettons, tu t'en vas au drague, là. C'était moins nécessaire, le bain en cœur. Fait que c'était assez particulier, assez vieillot. Mais les gens qui ont été propriétaires du Balmoral à Thetford, eux, je les ai rencontrés au Grand Prix à Montréal, au Grand Prix de Formule 1. Ils avaient été invités par Labatt, puis j'étais là aussi avec Labatt. Et je me souviens pas du nom du monsieur puis de son épouse, là, mais il était drôle en joie le vert. Puis c'était deux personnes très festives. Puis la madame, elle buvait de la bière, mais de la bière frette. Puis En Formule 1, la bière était pas assez frette, tu sais, dans les estrades, puis on était pas dans les estrades, mais dans un genre de petit garden, puis elle mettait de la glace dans sa bière. Maudit que c'était drôle. Fait que, puis le monsieur était venu en Formule 1 à Montréal, à l'hôtel, avec une Corvette de collection.
Okay.
C'est des années 60, là. C'est toujours, fin des années 60, les 67, 68, je pense, c'est des Corvettes de collection, là, peu importe. Puis, il arrive à l'hôtel, puis il parque ça en avant où le valet parking, et la Corvette stalle, puis elle part plus.
Non!
Obligé de la pousser sur le côté pour laisser de place aux autres véhicules. Ça fait quelques années de ça, mais c'était drôle.
Déjà que tu te fais remarquer à cause de ton char, c'est en plus, il part pas.
Ouais, c'est ça.
C'est pas parfait.
Bon, il y a encore des chambres de louer au jour ou au mois au
Balmoral. Moi, ce que je constate...
Monsieur Payeur, c'est en plein ça. Le monsieur que j'avais rencontré et sa femme Ginette. Gaétan et Ginette. Ah, quelqu'un dit Gaétan et Lynn, mais là, les noms, je me souviens pas.
C'est ce que je constate, moi. Là, le sujet Tedford puis l'amiante et tout ça, là, c'est le sujet où on a le plus de tout et son contraire au texto. Sans blague, là, tout le monde nous envoie des infos contradictoires, puis pas un peu, là, des tonnes d'infos contradictoires. Fait que là, parlez-vous à la gang, parce qu'on on n'est pas là, nous, mais on n'est pas capable de faire le vrai, de déterminer le vrai du faux dans tout ça. Là.
Mais en bas...
Pour vrai, là, c'est incroyable, j'ai jamais vu ça.
Sur le site de la ville, le slogan, ça dit juste Tedford, donc... Usuel, on dit juste Tedford, mais c'est marqué en bas, site de la ville de Tedford Mines.
Oh, oui,
ils l'ont gardé. OK. Mais toi, on n'en fera pas une chicane.
Là. Non, mais savez-vous, il y en a une ville qui a changé de nom, c'est Asbestos, c'est rendu Val-des-Sources.
C'est ça.
OK. Puis ça, on en a parlé pendant des années.
Ben oui, parce qu'il y a eu un vote. Là.
Mais tu sais, eux autres, ils veulent juste éliminer une partie du nom. Et c'est fait beaucoup plus souvent qu'on pense, parce que je crois, ben là, moi, la mienne, ma ville, n'existe plus. Mais moi, je restais à Pintendre. Je reste encore à Pintendre. Ouais. Mais moi, c'était Saint-Louis de Pintendre. Quand mes parents, on est arrivés là, puis le Saint-Louis est tombé. Tu sais, dans bien des cas, des fois, on a modifié c'est un peu les noms de cette façon-là. Alors, ça peut varier d'une fois à l'autre. Là. Fait qu'on chicanera pas avec ça. Là.
Notre invité est arrivé si tu veux remettre les utérus à plus tard.
On va remettre ça...
Si tu veux pas te chicaner, moi, je me chicanerai pas avec l'invité.
Non, je sais, je me chicanerai pas avec lui. Surtout que ça fait 50 ans qu'il est dans le domaine dont il vient nous parler. Alors, on va, oui, faire une courte pause. On a-tu tout dit ce qu'on avait à dire sur Tepper, là? On a-tu réglé le cas de tout le monde? T'sais, André Arthur...
Non, c'est ça, là.
André détestait Tedford, mais c'était la journée... Puis ça, j'étais là, c'est pas du mémérage. J'étais là parce que je me souviens pas pourquoi c'est moi qui faisais la description ce soir-là du match du semi-pro du Radio X qui jouait à Tedford. Puis André chauffait l'autobus du Radio X, puis... Ça, c'est l'année où la grève dans le lock-out de la Ligue nationale de hockey, puis Brashear jouait...
Ouais, Donald jouait là.
Oui, puis Patrice Demers, moi, à l'époque, moi et Patrice, on se parlait pas, là. Okay? On s'adressait pas la parole jamais.
Ça, okay.
On se parlait dans un... Mettons, on avait un meeting, j'avais un agent qui était Sébastien, un de mes chums, puis on allait d'un meeting, puis je disais à Sébastien, Patrice était assis avant de moi, là. Je dis à Sébastien, peux-tu lui dire que ça marche pas son affaire?
Hey, on dirait un couple en chicane.
Puis là, Sébastien, il disait... Fait qu'on se parlait pas direct, on était assis en face de l'autre.
C'est bon, ça.
Fait que, et ce soir-là... Je sais pas pourquoi, dans l'avant-match, il y avait les deux rangées de bancs derrière le banc du Radio X étaient réservées à l'équipe visiteur. Et Patrice était assis là. Le père à Patrice était venu aussi à ce match-là. André était assis là. Puis les spectateurs avaient amené des bananes.
Ouais.
Pour donner des bananes à Donald Brashear, vu qu'il avait la peau de couleur. Ah, et ça avait brassé. Il y a un gars qui était venu fermer les miroirs après l'autobus. Ça, on venait d'arriver. Puis André se parque en avant, puis le gars passe, puis il donne une claque sur le miroir pour fermer le miroir de l'autobus.
Moi, j'ai un extrait dans mes affaires que je pourrais te faire réécouter, là, où il y a un membre de la chambre de commerce de Tedford qui appelle André en onde pour lui dire « Ah, on vous a pas accueilli si durement. » Puis André, te le ramasse là, comme du monde pendant 10 minutes. C'était
quelque chose. Cette période-là.
La personne de la chambre de commerce est à l'entrée de l'autobus d'André puis il criait après.
Ah oui, c'était fou. On se faisait insulter. Moi, j'étais sur une petite galerie à Tedford qui était au bout de l'aréna pour faire la description des matchs. Puis le monde est venu en bas. Puis c'était une échelle pour monter. C'est pas un escalier,
Ben oui, j'en ai décrit des games là avec Mario. Ben oui.
Bon, puis le monde est venu en bas, puis il me criait des bêtises. Il y a une fille qui m'a crié, elle dit « Descends, moi, te l'arranger le portrait, moi. » J'aimerais aussi voir. On est où ici, là?
Hey, c'est au hockey, c'est grave, Stéphane. C'est une game de hockey. On pourrait perdre.
Eh hey, oui, c'était vraiment.
Bon, il y a le directeur des services à Thetford, là.
Thetford.
Oui. Ben, en tout cas, lui a été directeur des services. Il dit le nom demeure Thetford Mines, mais pour les communications et le marketing, c'est Thetford ou Thetford.
OK.
C'est selon.
J'imagine qu'ils peuvent demander un changement, mais en même temps, s'ils sont capables, eux, de l'éliminer tranquillement, là, puis qu'ils veulent se défaire de l'histoire de la ville.
Ça nous fera une autre demi-heure de radio.
C'est ça.
Fait que les utérus peuvent attendre.
Ben oui. Le mien va attendre, il va rester là.
Il va rester là?
Ben, idéalement.
C'est un sujet qui va être encore bon.
Ah oui, oui.
Ça reste bon longtemps,
ça. Hey, toi, veux-tu que je t'arrange le portrait?
Jusqu'à 40.
Hey, vous autres, mes tabarouettes. Ma gang de 56 qui a chaud, mais c'est moi le problème. Hein?
Je n'ai une, utérus, moi.
Oui, oui.
Hein? Ben oui, je l'ai fait enlever, je pense.
Avec le cerveau.
Une, ouais.
On vient.
93.
Segment découverte de Dupont le matin. Aujourd'hui, on va aller dans un monde qui, pour moi, est quand même assez méconnu parce que ne pratiquant pas ce sport-là ou ces sports-là, plusieurs sports connexes, vous allez comprendre, mais qui ont pris beaucoup de place, j'ai des amis qui pratiquent, par exemple, le karaté depuis toujours, une discipline qui a toujours su inculquer justement de la discipline. Les petits gars de Turbulent, à mon époque, là, où j'étais plus jeune, je me souviens que pour la discipline,
souvent... Oh, oui,
ouais,
on va faire un taekwondo, un judo,
oui,
quelque chose comme
karaté,
ça.
On va faire quelque chose.
Ouais.
Hey, ça fait 50 ans, cette année, que les studios Unis ont pris leur envol. Et pour en parler avec nous, il est le président et le fondateur des studios Unis. Monsieur Clermont Poulain est en studio avec nous. Bonjour, Clermont.
Bonjour, Monsieur Dupont, et merci de me recevoir à votre émission.
Ah, mais je suis très déçu de vous recevoir, Anime. Ça m'énerve.
Pourquoi?
Parce que comment vous faites pour être en shape comme ça? Parce que là, ça fait 50 ans, vous avez pas créé Studio Uni à 11 ans, là.
Non, j'avais 21 ans quand j'ai débuté.
OK.
Je vais avoir 72 à l'automne.
OK. Donc, mais toujours en pleine forme?
Oui, je suis en très bonne forme physique.
Ouais. Ouais. Comment ça commence, cette aventure-là? Parce que si on remonte d'il y a 50 ans, c'est pas très populaire, là, ou c'est pas à grand déploiement, le karaté, là.
Surtout dans la Beauce, il n'y avait pas de karaté non plus. Mais moi, je jouais au hockey, j'étais gardien de but.
OK.
Et... J'ai quitté l'école de bonheur pour aller aux États-Unis.
OK.
J'ai continué à jouer au hockey là-bas.
OK.
Mais je savais que je manquais de confiance et de réflexes. Donc, j'ai dit, j'ai vu une école de karaté, puis je me suis dit, je vais aller m'inscrire là et je veux développer ça, mes réflexes, puis changer pour que je sois plus confiant à chaque fois. Parce que quand j'étais jeune, je disais souvent à mon coach, si dans les 5 premières minutes, je me fais passer un sapin, sors-moi de là.
OK.
Mais si je bloque... Laisse-moi là, tu vas voir que je vais être capable de garder les buts. Et j'ai commencé les arts martiaux là-bas. Et j'ai développé, j'ai continué à jouer comme tous les jeunes. J'avais 16 ans. Et puis, à un moment donné...
Mais c'était pas dans le but de combattre.
Oh, pas du
tout. Souvent, des fois, on va associer le karaté, c'est un sport de combat, mais en réalité, la plupart des gens qui pratiquent le karaté, ils se battent jamais. Là. C'est...
Non, moi, je suis pas un bagarreur non plus, puis je suis un gars très pacifique. Moi, dans le fond, c'était pour jouer, c'était pour m'améliorer. Mais j'ai appris à force d'abord, j'avais déjà une complication, je parlais pas beaucoup anglais.
OK.
Donc, c'était une première complication pour moi. Mais j'y allais 4, 5 fois par semaine. Et puis, aussitôt que je finissais de travailler, puisque j'avais été aux États-Unis pour travailler dans la construction, mais ça a changé très rapidement, parce qu'à un moment donné, j'ai atteint le grade de ceinture bleue, à un moment donné. Et on m'a demandé de venir aider sur des cours de groupe.
OK.
Ce que j'ai accepté, mais j'ai dit, je suis capable de faire les gestes, mais de donner les explications, ça va être compliqué pour moi, là. Il a dit, non, tu te débrouilles bien, viens, ça va t'aider. Mais 2-3 mois après, j'avais commencé à faire ça. Je suis tombé en amour avec ça. J'ai lâché la construction. Je dis à mon frère se fâchait après moi, parce qu'il disait, regarde, tu fais des bons salaires dans la construction, puis là, tu vas gagner 50% de moins. Non, mais c'est ça que je veux faire dans la vie. J'ai dit, j'aime ça. J'adore enseigner. Je sais pas pourquoi il y a un contact avec... Je suis tombé en amour parce que d'aider quelqu'un à atteindre ses objectifs, c'est quelque chose.
OK.
Et je sais pas, je suis tombé très en amour avec ça, mais j'ai pas pu rester aux États-Unis. Puis j'avais pas mes papiers non plus. Puis dans l'équipe où, à qui je travaillais, il y a un gars qui travaillait pour les FBI.
OK.
Mais il le suit, lui.
OK.
Fait que là, il me dit, on peut pas te garder.
Le Canadien, il faut qu'il retourne au Canada.
Ah,
là.
Oui.
OK.
Et puis de venir à Québec, ben j'étais venu 2-3 fois dans ma vie. J'avais pas venu souvent ici à Québec. Mais j'avais le goût de venir ici.
OK, mais vous êtes natif de la Beauce.
Oui.
Vous partez donc pour les États-Unis à 16 ans. Vous découvrez le karaté là-bas.
Oui.
Là, vous revenez ici. Et là, c'est là que vous fondez les Studios Unis. Mais ça part comment, ça?
Ah, écoutez, le 8 avril 1974, quand j'ai ouvert mon école, c'est là que je me suis aperçu que je connaissais pas grand-chose.
OK.
Je pensais que j'étais prêt. Mais j'ai dû me battre pour... parce que de jour en jour, tout change.
OK.
Il fallait que je m'ajuste parce qu'on on a des ajustements à faire, même dans l'enseignement comme dans l'apprentissage du karaté. Au début, j'avais pas beaucoup de notions. Ce que j'avais, j'en avais un peu, mais je pensais que j'étais correct. Moi, là, je vais être capable de voler mes propres ailes. Aucun non. Ça a été difficile. Les premières
années. Mais qu'est-ce qui était dur? C'était le karaté ou l'entrepreneuriat comme tel?
Ah,
louer des locales, trouver des locaux?
Aussitôt que j'ai eu locaux, ça allait bien, c'est pas là. C'est que j'étais tout seul à faire tout. Parce que moi, de la comptabilité, j'étais pas bon non plus. Là. Et il fallait que je fasse le ménage, je faisais tout l'enseignement. Mais l'enseignement a été un de mes défis.
Ah oui, OK.
Parce que il y a pas personne qui comprenne de la même façon. Mais moi, je le sais pas, là. Là, je vole de mes propres ailes. Là-bas, il y avait toujours quelqu'un pour m'aider. Puis ici, il n'y avait personne pour m'aider. Ah, donc, le téléphone sonnait en même temps que je donnais un cours de groupe ou il arrivait quelqu'un à la porte. Il fallait que je cours d'un bord puis de l'autre. Attendez-moi 5 minutes, je revenais ici. Mais un moment donné, si tu laisses ton client puis il a payé, il est pas content non plus, là, lui. Mm-hmm. Puis le téléphone, ben souvent, j'y allais, mais je prenais le numéro de téléphone, je vais vous rappeler. Mais des cours, j'en avais à toutes les heures.
C'était sans arrêt.
C'était sans arrêt.
C'était à quel endroit, le premier local?
J'étais au 95 Saint-Vallier-Ouest.
OK, vraiment au cœur de Québec.
Ouais, j'étais au cœur de Québec, mais je connaissais rien dans Québec. Même que j'ai été un petit bout de temps, il a fallu que je couche dans mon studio, vivais là, j'avais pas d'argent plus qu'il fallait. Et puis j'ai monté la pente. Puis en plus, j'ai ouvert le 8 avril, donc j'ai tout de suite frappé l'été. Ça, c'est quelque chose que je sais pas. Et là, mais
OK, plus de popularité, c'est plus facile l'hiver que l'été. OK.
L'automne et l'été.
OK.
Et le temps que je couchais dans mon studio, puis que je mangeais un ou deux repas pour être capable d'avancer, puis d'atteindre le mois de septembre. Puis quand le mois de septembre est arrivé, j'avais fait un peu de publicité, mais tu sais, tout ce que j'avais, je l'investissais pour la publicité. Puis tout de suite, au mois de septembre, là, j'ai vu, là, ça a commencé à lever.
OK.
Puis là, ça lève. Mais là...
C'est beaucoup de bouche à oreille à ce moment-là, ça se parle?
Dans ce temps-là, il y avait une publicité, c'était des napperons de restaurant.
OK.
Puis je mettais toujours ma petite publicité dans le coin, puis je voulais l'avoir à droite dans le coin, parce que quand tu manges, tu dis tout le temps ce que...
Mm-hmm.
Et puis, ça a été dans une cinquantaine de restaurants. Puis tout de suite, ça a pris de la popularité, mais là, le monde se le disait aussi. Et puis, tu sais, moi, j'avais 21 ans. Il y en avait qui étaient beaucoup plus vieux que moi. Puis, il y en avait... Il se faisait un conflit à un moment donné parce que la gang que j'ai enseignée, ça devenait un peu comme mes frères. Ils étaient tellement amis avec moi à un moment donné. Ils arrivaient au studio avec... Moi, j'arrive vous débarrer le matin.
Je comprends.
Tu sais, à un moment donné, hey, Clermont, vous allez, Clermont. Puis, on fait ici, puis on fait tout ça. Puis, à un moment donné, bien, tu veux garder quand même une distance, tu sais, puis... Puis moi, quand je suis arrivé, je prenais presque pas de boisson aussi. Puis ils ont dit, ah, viens-tu prendre une bière? Non, je vais pas prendre de bière. Je sortais pas ben. J'ai tout mis mon temps pour...
C'est ça, vous vouliez développer l'entreprise.
Oui.
Et à ce moment-là, vous êtes ceinture quoi? Vous êtes où dans votre développement à vous, dans le karaté?
Quand j'ai ouvert, j'étais première dan, mais ça a été pas trop long que j'ai ma deuxième dan, je pense, dans la...
Donc, ceinture noire, ça.
Ouais.
Ça, des dan, c'est juste ceinture noire.
Quand t'es ceinture noire, c'est moi pensant qu'en étant ceinture noire, tu savais tout, là, tu sais, on était à 13 ans.
Mais c'était le sommet, ceinture noire.
C'est ce que je pensais, mais ceinture noire, pour nous autres, là, débutants, c'est de blanche à noire. Puis tu tombes au secondaire quand tu arrives à la ceinture noire.
OK.
Puis quand tu deviens, tu montes dans les degrés, dans les danes, comme le cinquième dan, c'est un peu comme si je vais à l'université.
OK.
Puis là, on continue de monter jusqu'à la dixième dan.
OK.
Puis rendu à la dixième dan, ben, il y a des titres. Alors, il y a des titres un peu comme vous avez un bac, une maîtrise.
Mm-hmm.
Alors, moi, au fur et à mesure que j'avançais, ben je comprenais les choses, puis il fallait que je m'ajuste, puis je changeais aussi, parce que mon enseignement changeait constamment. Et aussitôt que j'ai atteint mon grade de cinquième dan, ben là, les autres montaient aussi avec moi.
Vos élèves, ça.
Mes élèves.
Ouais. Mais vous, là, vous faites quoi pour avancer? Est-ce qu'il y a quelqu'un au-dessus de vous qui lui est plus haut que vous et ben qui peut vous, qui vous atteste et qui vous aide à vous améliorer?
Tous les mois, il fallait que je monte aux États-Unis.
Ah, ouais, OK.
J'allais dans la région de Boston à cette époque-là. Après ça, ça a changé. Au début des années 80, j'ai laissé cette organisation-là parce que je me sentais saturé un petit peu avec l'information, tout ça. Puis j'avais entendu parler d'un autre grand maître qui était dans le Rhode Island. J'ai été le voir, puis j'ai été avec lui jusqu'en 1998. Parce qu'il est décédé en 98 d'un cancer. Et là, j'ai vu encore un trou noir parce que ça a été... Quand tu perds ton maître, tu perds tes repères aussi. Tu sais, faut que tu cherches.
Mais c'est quoi un maître pour quelqu'un qui fait du karaté? C'est votre mentor?
C'est mon mentor. Je vais chercher l'information. Autant au niveau enseignement que de comprendre une technique. Tu sais, d'apprendre une technique, c'est quelque chose. Tu as juste à la pratiquer. Mais pour enseigner, c'est différent d'une personne à l'autre. Puis souvent, il faut trouver les mots puis les façons de le dire. Parce que je dis souvent à mes élèves puis à mes instructeurs, tu sais, moi, quand j'allais à l'école, à un moment donné, j'ai eu des problèmes avec les mathématiques. Et puis, l'année d'après, le professeur était tellement bon que j'ai eu des meilleures notes, je pense que c'est la sixième année.
Il y avait la façon, lui, de
lancer. Il y avait la façon de dire. Mm-hmm. Puis, il fallait que je m'ajuste tout le temps. On est constamment en évolution. Ça fait que ce que je disais cette journée-là, peut-être dans un an, il fallait que je dise d'autres choses. Parce que j'avais trouvé quelque chose de meilleur. Alors, ça a été comme ça avec mes instructeurs tout le temps.
OK.
Et puis, présentement, l'instructeur que j'ai, il vient de la Californie, de Sacramento en Californie.
OK.
C'est excellent, c'est encore un autre. Mais c'est encore dans la même lignée, parce que c'est comme de la descendance.
Mais là, attendez, le Californien dont vous parlez, oui. C'est votre instructeur à vous personnel?
Personnel.
Vous avez, à 71 ans bientôt, vous avez encore un instructeur personnel?
Toujours. Toute nouvelle vie, vous allez apprendre.
Oui, je comprends, mais là, vous avez plafonné, vous l'avez atteint, votre dizaine d'années, et vous pouvez plus monter, là?
À peu près là, un an, je lui ai dit, je me sens encore ceinture blanche. Il dit, t'es comme moi. Il dit, on n'en sait jamais assez. Il y a trop de monde qui pense qu'ils savent tout.
Okay.
Il dit, c'est pareil dans tous les métiers. Vous en apprenez à tous les jours. Et à chaque fois, ça me fascine. Ben, lui, ce qu'il fait, c'est tellement sur la touch, là, il est sur son X, là,
ouais.
Que des fois, on ne voit pas ce qu'il a fait. Tellement que c'est rapide. Puis ses bras droits, ben des fois, ils les font un peu plus grands, puis je comprends.
OK.
Je dis comme ça. Il dit, toi, tu l'apprends dans le dur, là. Je dis comme ça. Il dit, nous autres, là, il dit, les mouvements étaient beaucoup plus grands. Aujourd'hui, ils sont rétrécis. Et c'est plus rapide. Tu perds moins de temps. Et alors, c'est ça, l'enseignement.
Okay.
C'est continuer.
Bon, mais ça, là je sens très bien, M. Poulain, votre passion incroyable pour le karaté. Mais il y a eu une entreprise qui est née derrière ça. Et puis, c'est elle qui aura 50 ans lundi, le 8 avril.
Oui.
Ça, là, le côté entrepreneurial, là, bon, vous avez votre école. Là, je comprends que dès 84, c'est ça, là, ça monte, puis ça décolle. Vous ouvrez quoi, d'autres locaux? Comment l'entreprise grandit et est née de ça?
Un autre. Partie qui était très, très, très difficile parce que les gens étaient très proches de moi. Puis là, je sentais qu'ils voulaient tout ouvrir des studios. Mais je savais qu'il y en a qui pouvaient les ouvrir. Puis il y en a d'autres qui ne pouvaient pas avoir ça parce qu'ils n'ont pas la même passion. D'abord, il faut être capable d'enseigner aux enfants. Puis je savais qu'il y en a qui n'étaient pas capables de le faire.
OK.
Fait que, faut à quelque part, ce que je ne savais pas, il fallait que je l'apprenne aussi. Alors, comment faire pour pas que le tapis me glisse sous les pieds? Et en 1985, j'ai établi des franchises. J'ai pris la carte de Québec, puis je l'ai séparée. J'ai fait
des territoires.
Puis j'ai fait des meetings, puis je les ai parlé. Puis je les ai dit, les problèmes qu'ils vont avoir. J'ai dit, faut jamais abandonner. Vous allez voir, des fois, vous allez trouver des situations qui sont extrêmement difficiles. Tu peux mettre un genou au sol, mais il faut que tu te relèves pour continuer à finir ta job. Et souvent, je l'ai mis au sol.
Fait que, OK, vous vendez des franchises, mais vous restez impliqué à chaque fois que vous avez une franchise.
Oui, je continue de les enseigner, mais de dire non à quelqu'un, c'est quelque chose. De dire oui, maintenant, faut que tu t'en occupes. C'est comme créer une famille puis des enfants.
Combien de franchises vous avez monté? Combien?
J'avais 25 franchises qui ouvraient 6 jours par semaine. dans mon plus top là, que j'avais. Mm-hmm. Puis j'avais 48 satellites. Donc, c'est on ouvrait dans des petites municipalités comme Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, dans plusieurs écoles primaires, secondaires ici. On s'occupait. Mais le COVID m'a mangé. On était fermé pendant un an. J'ai perdu trois studios. Mais
ça veut dire que vous êtes encore impliqué dans ça,
je suis très impliqué,
au quotidien.
Hein, oui? Même fermé durant le COVID, je faisais du Zoom avec